Bonjour et bienvenue à cette édition du National, édition du 3 mars 2017. Vous vous attendiez peut-être à entendre la voix de Clotilde Seille. Eh bien non, Martin Forgue au micro de Canal M pour vous accompagner au cours de ce bulletin pour les 60 prochaines minutes. Ne vous en faites pas, Clotilde sera de retour la semaine prochaine après une semaine de repos bien méritée. Et il faut dire qu'elle a probablement pris un excellent moment puisque cette semaine, bon, on l'a tous vu, on l'a sûrement vécu également. Côté météo, hein, c'était assez rocambolesque, ça s'est beaucoup promené en yo-yo. Et disons que cette semaine, peut-être était-elle à l'image de l'hiver en général avec sa grisaille, ses problèmes de stationnement, ses problèmes de déneigement, ses problèmes de transport. Ça peut venir avec son lot de stress. Évidemment, quand on est en situation d'handicap, ça peut apporter sa double dose de stress justement. Et vous serez heureux d'apprendre qu'il y a un moyen très, très, très efficace pour se détendre, pour se tenir en forme également. Le yoga, qui est tout à fait disponible pour les personnes en situation d'handicap. Et d'ailleurs, Marianne Paquette s'entretenait cette semaine avec Antonella Moroun, professeure de yoga à C'est bon pour la santé.
Antonella Moroun, elle est co-directrice du comité yoga et handicap de la Fédération francophone de yoga, professeure de yoga également. Et on parle avec Antonella de yoga adapté pour les personnes qui vivent en situation de handicap. Bonjour Antonella.
Bonjour.
Merci d'être là.
Merci de m'avoir invitée.
Yoga adapté.
Oui.
Qu'est-ce que ça signifie d'entrée de jeu?
Bon, les yogas adaptés, c'est qu'on prend des postures de base, des postures classiques, et on l'adapte au corps de la personne aux besoins spécifiques.
Votre clientèle, elle ressemble à quoi, Antonella?
Écoute, ça peut être des personnes qui ont la sclérose en plaques, la paralysie cérébrale, ataxie. Ça peut aller aussi dans des problèmes de santé mentale. Donc, c'est très vaste.
Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à s'intéresser aux personnes qui vivent en situation de handicap à travers votre pratique de yoga?
Écoute, c'est un constat. J'ai réalisé que le monde du yoga ici au Québec, même au Canada et aux États-Unis, n'était pas adapté aux personnes à mobilité réduite. Le yoga est universel et pour tous. J'ai voulu faire ça ma mission, le faire concret, et j'ai commencé à travailler avec ces personnes-là.
Avec d'accord. Qui peut pratiquer le yoga? Est-ce qu'il y a des contre-indications?
Écoute, tout le monde peut pratiquer le yoga. Le yoga est pour tous. Que la personne soit en fauteuil roulant, qu'elle puisse bouger, qu'elle soit au lit et qu'elle puisse seulement bouger les yeux, tout le monde peut le faire. Les contre-indications, ça va être aux profs d'adapter certaines postures, mais c'est ouvert à tous, pour tous.
Au sein de la Fédération, est-ce qu'il y a plusieurs enseignants de yoga qui ont épousé votre cause?
Oui, effectivement, on a un comité yoga handicap. Et si vous allez au site web de la Fédération francophone de yoga, vous allez trouver les professeurs qui se spécialisent aussi dans ces domaines avec leur numéro de téléphone et la région.
Quels sont les bienfaits pour la personne qui vit en situation de handicap? Vous avez pu, à travers le temps, en observer, j'imagine, Antonella.
Oui. Donc, d'abord, il faut spécifier que les gens à mobilité réduite sont des personnes comme vous et moi, qui ont les mêmes besoins de base. Par exemple, être en paix, s'aimer, bien dormir, gérer l'anxiété, le stress, l'estime de soi. Donc, déjà, le yoga vient gérer et travailler ça à travers les postures, les exercices de respiration, de visualisation et la relaxation. Ensuite, si on va dans le plus spécifique, ça vient travailler la posture. Il faut comprendre qu'il y a des personnes qui peuvent passer toute la journée dans une même posture, que ce soit en fauteuil roulant ou au lit. Donc, le yoga vient de se faire travailler les postures, défaire les tensions, diminuer les douleurs physiques, aussi émotionnelles. Ça fait travailler l'endurance, la force, la flexibilité, la concentration, ça augmente l'énergie, la bonne humeur.
Faut-il que vos enseignants soient formés à interréagir avec cette clientèle qui a des besoins assez particuliers?
Effectivement. Ce n'est pas n'importe qui a pris une formation en 200 heures ou 300 heures qui peut travailler avec cette clientèle. Puisque, oui, il faut savoir adapter les postures, savoir quels exercices sont les plus recommandés pour eux et ensuite savoir adapter. Donc, il faut aussi comprendre la maladie,
ouais.
Les symptômes et qu'est-ce qu'elles ont de besoin.
Mm-hmm.
Donc, il y a au sein de la fédération des enseignants qui forment, dont moi, en yoga thérapeutique et adapté.
La fédération a été créée quand, Antonella?
Il y a 30 ans.
Oh, quand même! Donc, ouais. Vous n'étiez pas là il y a 30
ans. Non,
vous avez relevé le défi de continuer la mission?
Oui. Oui, effectivement. Moi, j'ai travaillé avec la fédération depuis 3 ans déjà.
OK. Et vos enseignants, vos cours sont offerts à travers le Québec. Où oui. exactement, à peu près?
Écoute, tu peux aller vraiment à la ville de Québec. Tu peux aller aussi... je ne connais pas toutes les régions, mais c'est aussi à l'extérieur de Montréal que tu peux
Et
trouver.
Et tous vos enseignants partout dans la province sont... formés à œuvrer auprès d'une clientèle ayant des besoins spécifiques.
Oui, effectivement. Et si vous allez sur le site web de la Fédération, vous allez trouver exactement les maladies que ces professeurs sont aptes à travailler.
D'accord. Est-ce que la personne qui vit en situation de handicap doit nécessite une assistance particulière? Est-ce que c'est du 1-1? Vous le faites plutôt en groupe?
Les deux sont possibles. Il y a des cours qui s'offrent en groupe. La personne peut arriver par elle-même, que ce soit en fauteuil roulant, avec un déambulateur, etc. Et il y a d'autres personnes qui arrivent avec un assistant.
Mm-hmm.
Ensuite, la personne peut aussi le faire de façon autonome chez elle. Elle peut choisir les exercices à la base qu'elle peut faire. Et il faut comprendre aussi que le yoga n'est pas juste des postures, mais aussi il y a les exercices de respiration que tout le monde peut faire, des visualisations, de relaxation. Il y a même le yoga du son qui peut oui. se faire. Donc, c'est accessible.
Le yoga continue d'accompagner la personne, même une fois rendue à la maison ou dans ses différents soins.
C'est le but.
Oui.
Le but du yoga est vraiment d'aider à la personne à vivre dans ce tourbillon de la vie, à passer à travers les moments les plus difficiles et apprécier aussi les bons moments.
Oui. La personne se rend au cours. Ce n'est oui. pas l'enseignant qui se déplace.
Ça peut être les deux. La personne peut aller au cours, que ce soit avec les transports adaptés, etc.
Ou là, c'est le groupe
davantage. Exactement. Ou le professeur va chez la personne.
Oui. Une personne qui vit avec la sclérose en plaques n'a pas nécessairement les mêmes besoins qu'un blessé médulaire, par exemple.
Non.
Il faut connaître la condition de la personne ouais. et adapter la pratique du yoga aussi.
Oui, exactement. Donc, le yoga va s'adapter selon... la maladie de la personne, la capacité aussi corporelle, physique.
D'accord.
Effectivement.
Maintenant, pour en savoir davantage, on va sur votre site, Antonella.
Oui. Allez au site de la Fédération francophone de yoga. Vous allez trouver les professeurs qui sont aptes à vous accompagner. Voilà.
Oui. Ouais. Vous avez des partenaires aussi?
Oui. En fait, il y a des cours de yoga adaptés qui s'offrent à Vie Autonome Montréal.
Mm-hmm.
SIVA, S-I-V-A. Et aussi l'Association des sclérose en plaques qui en offre, et Parkinson Québec, si je ne me trompe pas.
Est-ce que ces organismes ou ces organisations sont là, présentes, pour vous donner de l'information aussi, que ce soit sur les maladies ou la réalité des personnes
oui.
qui...
Oui, effectivement. En tout temps, ce sont des organismes qui sont disponibles à répondre à toutes nos questions. En fait, il faut, parce que quand un professeur de yoga adapté va donner un cours en groupe, il se doit de savoir... la santé des gens.
Ouais. Avez-vous l'impression que la Fédération et vous aussi, à travers l'enseignement du yoga, prouvez que le yoga, c'est vraiment pour tous et peut amener un bienfait, à, que ce soit un enfant, que ce soit une personne en situation de handicap, que ce soit une personne âgée, ça élargit un petit peu les horizons.
Effectivement. De ce fait, la Fédération est la seule organisme à avoir un comité en yoga handicap.
Ouais.
Même si vous allez dans les sites web des autres organismes ou alliances, ils disent oui, le yoga doit être accessible, le yoga est universel, mais ils font rien de concret. Tandis qu'à la Fédération de yoga, oui, il y a des cours pour enfants, pour personnes âgées, pour personnes handicapées, pour personnes qui ont des problèmes digestifs, etc.
Oui. On laisse votre site fédérationyoga.qc.ca. Ça fait 30 ans que ça existe. Comment ça? On ne connaissait pas ça.
Écoute, il va falloir travailler sur le marketing, peut-être.
Oui, tout à fait. Vous allez devoir, Antonella, multiplier les entrevues. Antonella Moron, vous êtes professeure de yoga, co-directrice du comité yoga et handicap, et vous œuvrez au sein de cette fédération.
Oui.
Merci beaucoup de votre
passage.
Merci
à vous, merci.
Ben, comme vous pouvez voir, c'est une excellente nouvelle de savoir que des activités comme le yoga sont disponibles à tous et à toutes. Bref, à ceux et celles qui décideront de s'en prévaloir, eh bien, on vous souhaite beaucoup de plaisir. Et un peu plus tôt cette semaine, on avait également notre chroniqueur travail, Franck Bouchard, qui s'est entretenu de son côté avec Benoît Racette dans le cadre de l'émission Accès libre. On a parlé de la place du travail dans le projet de loi cadre fédéral sur l'accessibilité. On sait que c'est un sujet qui est quand même assez récurrent, l'accessibilité en milieu de travail. Eh bien, on écoute la chronique de Franck.
Les consultations pour un Canada accessible se terminent le 28 février 2017 et parmi les priorités énoncées par les Canadiens et Canadiennes, le leadership des personnes en situation de handicap, l'emploi figurent certainement en tête de liste. Donc, on revient sur les enjeux avec notre chroniqueur Monde du Travail, Franck Bouchard. Bonjour, Franck.
Bonjour.
Merci d'être avec nous de nouveau. L'emploi sera certainement à l'honneur. Franck Bouchard, des déclarations ont été faites à cet égard. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Bien, effectivement, la ministre responsable de l'élaboration de cette loi-là au fédéral, Mme Carla Caltrou, au début du mois de février, donc à la fin des consultations, des différentes séances de consultation qui avaient lieu, a effectivement mis de l'avant que dans ces séances de consultation-là, la question de l'emploi était revenue de façon récurrente. Donc, mm-hmm. c'est certain. Et de ce contexte-là, évidemment, la future loi, fera une place très importante par rapport justement à l'accès à l'emploi pour les personnes en situation d'handicap. Donc, dans ces affirmations, la ministre, notamment, bon, revenait sur le fait qu'il y avait un taux d'emploi quand même assez problématique, effectivement.
Oui.
Effectivement, assez problématique. Donc, si on regarde, par exemple, les personnes en situation d'handicap, on parle, bon, selon les statistiques, on voit qu'on est autour de près de 50 % de taux d'emploi comparativement à près de 80 % pour des personnes sans incapacité. Donc, il y a un rattrapage à faire, un rattrapage qui est là depuis déjà un certain nombre d'années, mais bon, ça a été réitéré dans le cadre des consultations. Dans ce contexte-là, effectivement, la ministre donc souhaite mettre l'emphase beaucoup sur l'accès à l'emploi, particulièrement du côté des entreprises, donc ce serait davantage de juridiction fédérale.
Ah oui, mais justement, vous nous mettez la table. C'est quoi ces entreprises-là ou ces secteurs d'emploi-là qui sont sous la juridiction du fédéral?
Alors, on parle surtout d'entreprises qui sont dans différents secteurs, les secteurs des banques, mm-hmm. le secteur des communications, par exemple, tout ce qui concerne, les stations de télévision, Bell, Vidéotron, etc., donc de ces types d'entreprises-là. Le secteur des transports, notamment, Via Rail, tout le transport ferroviaire, le transport par autobus interprovincial, de camions, etc. Et tout aussi le secteur fédéral comme tel, dans le sens où la fonction publique fédérale aussi est assujettie à ça. Donc, c'est certain qu'il y a un souhait à ce qu'on fasse davantage d'efforts auprès de ces employeurs-là.
Mais on regarde tous ces secteurs-là, puis il faut le dire, bon, au niveau du gouvernement fédéral, il y a des avancées certaines qui ont lieu. Les banques sont assez bons joueurs, souvent, pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Remarquez, pas dans tous les types d'emplois. Hein. Des fois, on leur offre des emplois peut-être à responsabilité restreinte, mais quand même, il y a du travail qui est fait. Dans les communications, ça m'impressionne. Comment vous pensez que ça va être possible? On parle des télécommunications et des communications médias?
Effectivement, c'est un secteur donc, de juridiction fédérale. Il faut dire que ces secteurs-là ont quand même déjà des obligations déjà depuis plusieurs années avec la loi sur l'équité en matière d'emploi. Déjà depuis à peu près le milieu des années 80, cette loi-là est en place.
Mais ce qu'on constate
constate, c'est que cette loi-là n'a pas donné les résultats escomptés. Il y a encore, malgré près de 30 ans peut-être de mise en place de cette loi-là, qu'il y a encore du rattrapage à faire, il y a encore insuffisance de personnes en situation de handicap qui sont représentées parmi les employés dans ces entreprises-là. Mmh. Effectivement, du côté des télécommunications, bien, c'est quand même assez vaste parce que, bon, si on parle de gens qui peuvent travailler au service à la clientèle, par exemple, chez Vidéotron, qui vont répondre.
C'est assez facile quand même.
Du côté des techniciens, du côté... Donc, c'est sûr et certain qu'il peut y avoir un éventail d'emplois dans ces types d'entreprises-là. Du côté transport, bien oui, il y a les chauffeurs, bon, c'est peut-être moins évident, mais il y a tous les gens qui s'occupent de l'entretien, de tout ce qui s'occupe de la gestion des déplacements, tout ça. Donc, c'est assez vaste
et
quand même.
Et même des services... adaptés ou les services aux personnes en situation d'handicap.
Effectivement, mais il faut faire attention parce que ça concerne quand même les services de transport interprovincial. Donc, c'est sûr que c'est relativement restreint comme secteur dans le sens où la loi ne va pas toucher à ce que touche déjà des lois provinciales. Donc, c'est certain qu'on va
pas toucher. Donc, ça n'aurait pas d'impact sur la STM, par exemple.
Ça n'aurait pas d'impact sur la STM parce qu'elle n'est pas assujettie du côté fédéral. Mm-hmm. Elle est plus assujettie à les lois provinciales dans ce contexte-là aussi au Québec.
Bon. De manière générale, particulièrement pour les personnes en situation de handicap, là, C'est quoi les autres enjeux? C'est quoi exactement les enjeux du travail qu'il faut travailler, là, sans jeu de mots?
Mais c'est certain que, la ministre l'a bien dit, c'est que l'emploi, bon, pour avoir accès à de l'emploi, c'est pas juste de convaincre des entrepreneurs d'embaucher, il faut aussi mettre en place des mesures qui vont permettre aux personnes de pouvoir faire accès au travail. Donc, toute la question du transport, des déplacements, de l'accessibilité des bâtiments, etc., donc des communications aussi, font partie d'éléments qui vont venir favoriser l'embauche des personnes handicapées. Si les immeubles ne sont pas accessibles, si les moyens de communication ne sont pas accessibles, etc., ça vient empêcher ou donner des obstacles supplémentaires. Donc, la loi va travailler sur l'accessibilité au sens plus large. Donc, c'est certain qu'elle va toucher des moyens de communication, va toucher les bâtiments, va toucher les différents éléments comme ça. Donc, de façon... Elle va toucher aussi peut-être plus particulièrement l'emploi sur les pratiques que vont mettre en place les employeurs pour recruter les personnes, les embaucher, les mettre en place, les garder en emploi, etc., donc en termes d'adaptation.
Et brièvement, là, on se renseigne où pour la suite, puisqu'il y a une loi prévue en 2018? On aimerait bien apprécier tout ça. Donc, c'est quoi les prochaines étapes pour rester informé?
Les prochaines étapes, c'est sur le site web donc, de Canada Accessible, justement, qui sûrement que les éléments en termes de prochaines étapes vont être mis de l'avant. Comme vous disiez au début, c'est aujourd'hui que prennent fin les consultations via Internet. Il y aura, je veux croire, un rapport par rapport aux résultats de ces consultations-là et sur les étapes à venir. La ministre parlait que de devoir déposer cette loi-là d'ici un an environ de rendre ça accessible. Donc, c'est à surveiller.
OK. Donc, il y a une adresse, c'est ça? On repère Canada Accessible?
Oui, effectivement. On pourra trouver peut-être l'adresse via
le Canalem,
effectivement, pour trouver les informations par rapport à cette loi-là.
Bon, c'est très bien. On va l'indiquer de nouveau sur le site de l'émission. On a essayé de faire le plus possible une tribune, hein, pour ces consultations-là de Canada Accessible, et l'emploi demeure déterminant. Vous l'avez relevé, vous l'avez rappelé.
C'est un enjeu majeur, effectivement, parce que c'est souvent, c'est central dans le sens où les personnes qui vont accéder à de l'emploi, ça détermine aussi toutes sortes de possibilités en termes de développement personnel, en termes de revenus, permet d'avoir un appartement, une voiture, etc. Bon, c'est connu.
Non, c'est ça. La défavorisation économique des personnes en situation de handicap, c'est, disons-le, un des grands handicaps.
Enfin, effectivement.
Soyons clairs. Okay. Merci beaucoup, Franck Bouchard, d'être venu une fois de plus pour nous parler du monde du travail. Et on repère sur notre site, le site de l'émission, les suites de Canada Accessible.
Merci beaucoup.
Eh bien, on reste dans Accès libre pour vous parler du prochain sujet. Un peu plus tôt cette semaine, Benoît s'entretenait également avec une animatrice qui sera familière pour les fidèles de Canal M, Maxime Despomerleau, qui venait présenter le nouveau magazine culturel qu'elle animera sur nos ondes. Donc, le magazine s'appelle Sortir et on écoute l'entrevue avec Benoît.
Maxime Despomerleau veut sortir. Et c'est un peu avec de Bossa Nova qu'on entre avec elle à l'émission. Faut que vous le sachiez, ça évoque le tout nouveau magazine culturel animé par l'étoile filante Maxime Despomerleau. Bonjour Maxime.
Wow, Benoît, merci de cette belle présentation.
Ben moi, je vous vois comme l'étoile filante. On est content de vous avoir encore avec nous à Canal M. Enfin, bon, d'abord présentez...
Je suis très heureuse de revenir à Canal M. J'étais pas là l'automne dernier, mais donc je suis très heureuse de faire mon retour aussi.
Bon, content. En plus, pour que les gens comprennent bien là, tout l'enthousiasme qui m'anime, il faut que vous sachiez que je suis venu souvent à l'émission de Maxime Despomerleau il y a pas si longtemps avant de prendre la barre de cette émission, donc c'est un peu émouvant là, pour moi, je dois vous avouer. Bon, c'est ça, qu'est-ce que voulez-vous? Donc, présentez-nous brièvement ce magazine Sortir pendant qu'on y est, puisque ça va sortir vendredi 3 mars.
Oui, c'est ça, la première a lieu vendredi 3 mars. C'est un magazine hebdomadaire, donc tous les vendredis de 11h30 à midi. Et c'est le magazine culturel inclusif de Canal M. Donc, on y va toujours dans notre angle particulier à Canal M. Tout l'aspect d'accessibilité à la culture est évoqué. Donc, non seulement l'accessibilité des lieux, notamment bon pour les personnes qui utilisent des aides à la mobilité, mais aussi toutes les initiatives en collaboration avec le milieu communautaire, le milieu artistique, les initiatives de médiation culturelle qui permettent aux citoyens d'avoir un meilleur accès à la culture et aussi tout simplement d'y participer et de la se réapproprier.
Est-ce que je me trompe, Maxime, mais ce magazine vous ressemble un peu?
Oui. Oui, parce que j'ai dans mon travail, j'ai beaucoup cette optique-là de, comme je dis, de médiation culturelle. Mm-hmm. Je me vois beaucoup comme un pont, en fait, qui aide à créer des liens entre les gens, entre des communautés qui peut-être autrement ne se rencontreraient pas. Et je pense que c'est un peu l'objectif du magazine aussi, c'est de faire connaître des initiatives intéressantes. Et pour l'anecdote, ça a commencé à germer dans notre esprit l'année dernière, alors que j'animais Ça roule des tours.
Oui.
Et où on se rendait compte qu'il y avait beaucoup d'initiatives porteuses qui étaient mises de l'avant dans le secteur culturel et dans le secteur du loisir et du communautaire aussi. Mm-hmm. Alors, on s'est dit qu'il y avait, du matériel pour ça et de faire justement un magazine qui était orienté sur la culture inclusive. Donc, c'est un peu comme ça que ça a germé.
Donc, chère Étoile, on va parler deux instants de vous, si vous permettez, parce que vous avez une pratique artistique. C'est aussi à partir de là que vous regardez ces productions culturelles-là, ces événements. Où vous en êtes, Maxime Despomerleau, l'artiste?
Je l'avoue qu'en ce moment, je suis dans une très belle période professionnelle. Donc, il y a des productions, entre autres, avec la compagnie Corpuscule Danse, mm-hmm. pour laquelle je suis interprète, et que je vais certainement recevoir éventuellement à l'émission. donc, il y a en ce moment, le projet Quadriptique qui existe. C'est un projet de laboratoire avec 4 chorégraphes. Ça s'échelonnait ça a commencé en 2016 et jusqu'à mai-juin 2017. Mmh. Et donc, il y a plusieurs chorégraphes qui sont appelés à travailler avec la compagnie dans le but de comprendre la danse intégrée, de l'amener aussi à un public, de la faire connaître à un public. Donc, vraiment, j'invite les gens à suivre le projet sur quadriptique.com. Et il y a aussi, je travaille en télé, j'ai mes propres projets en cinéma, je commence à la réalisation de courts-métrages.
Donc, est-ce qu'il y aura un suivi
à...
Je m'excuse de vous interrompre, mais est-ce qu'il y aura un suivi à Batwheel? Parce que Batwheel vous a quand même propulsé, vous a montré à nous et a fait comprendre que vous étiez déterminé devant les obstacles à la culture.
Oui, et Batwheel, c'est évidemment, c'est mon bébé, c'est mon alter ego, il faut le dire aussi.
Ouais.
Oui, j'ai toujours le désir de travailler à développer ce projet-là. Là, en ce moment, disons, dans les prochains mois, ça va beaucoup plus être la phase d'écriture et de pré-production, de recherche.
Okay.
J'ai réussi à aller chercher une petite bourse au Conseil des arts du Canada.
Ah, ben bravo!
Merci pour, dans un programme qui a été mis en place, un programme pilote pour donner un coup de main aux artistes en situation de handicap, pour avoir accès aux premières bourses. Pour pouvoir se consacrer à quelque chose. C'est ce qui donne la porte d'entrée parfois après pour avoir accès à d'autres types de subventions.
Maxime Despomerleau, c'est excellent. Il faut absolument le publiciser tout ça. Il y a maintenant un petit programme en forme de projet pilote pour les artistes en situation de handicap?
Si on veut, oui, pour le Conseil des arts, j'essaie de retrouver le nom rapidement comme ça en tête.
Mm-hmm.
Mais c'est une initiative. Mais c'est sûr qu'il faut, comme tous les types d'institutions, qui financent la culture, il faut avoir déjà un bagage, il faut avoir une feuille de route parce qu'il y a quand même des normes et des certains facteurs qu'on doit respecter pour soumettre un dossier.
Mm-hmm.
Moi, j'ai été en mesure de soumettre quelque chose la première fois à l'automne 2015, et donc j'avais reçu ma réponse en 2016, puis j'ai quelques années pour le réaliser.
Ah, mais c'est magnifique. Revenons à sortir maintenant.
Oui!
Cette émission qui sera bientôt diffusée sur Canal M, on le rappelle, les prochaines, là, ça ressemble à quoi?
Je pige un peu de tous les côtés. J'y vais beaucoup avec mes intérêts, évidemment, mais vraiment dans le but de faire connaître des choses aux gens. Mais on va parler entre autres de la pièce 9 de Cas Public, qui prend l'affiche à Place des Arts prochainement. C'est une pièce de danse contemporaine et le danseur étoile, si on veut, est un danseur sourd.
Mmh.
Et c'est inspiré de la 9e symphonie de Beethoven. Donc, il y a déjà des choses là.
Ah, mais il y a des liens chez les sourds, là. Oui.
Oui, et donc, il y a plein de choses à discuter. On va mettre l'emphase sur les productions de l'Académie théâtrale L'Envol de Laval, qui fait de la théâtrodescription.
Mm-hmm.
Aussi, Spectacle Interface, qui présente des spectacles d'humour annuellement avec des humoristes et traduisent, en fait, à côté, en langue des signes québécoise, le contenu.
Donc c'est tout. C'est foisonnant, ça. Il y a vraiment des belles choses qu'on va entendre avec vous. Donc, je vous laisse la conclusion. Dites-nous quand on vous entend et où.
Ben, on nous entend bien sûr sur Canal M, la radio de Visévoix, donc en ligne ou sur la télé numérique. C'est le vendredi en direct de 11h30 à midi et plusieurs fois en reprise. Et aussi, je me permets de dire quelques secondes, on va aussi poster des choses, publier des choses sur Facebook.
OK.
Dont
on le sait maintenant.
Mix,
merci.
Il y a plein de choses à voir, suivez-nous.
Merci, Maxime Desbois-Merleau.
Merci, Benoît.
Eh bien, bienvenue, Maxime, et on te souhaite le plus grand des succès pour la suite des choses. Et puisqu'on parle de culture, eh bien, on va se laisser pour une toute petite pause musicale et au retour, la deuxième partie du National, toujours sur les ondes de Canal M. Bien, c'est le National, deuxième partie de l'émission, toujours animée par Martin Forgue sur les ondes de Canal M, en remplacement de Clotilde Seille, qui sera de retour dès la semaine prochaine. Encore une fois, un peu plus tôt cette semaine, Valérie Larouche, la mère de Camille, qui vit avec le syndrome de Turner, qui nous parle de son parcours et de sa petite fille. Donc, c'est tiré de l'émission Portrait de famille avec Marianne Paquette.
Aujourd'hui, je vous présente la famille de Valérie Larouche. Elle est maman de Camille, 12 ans, presque 13 ans. Camille, c'est un bébé de Pâques. Elle est née un vendredi de Pâques et bien, Pâques, ça s'en vient dans quelques semaines. Valérie est également directrice générale de l'organisme Mère avec pouvoir. Et comme à l'habitude, vous commencez à le savoir maintenant, je me suis inspirée du parcours de Valérie, de son cheminement, ses intérêts, ses passions pour construire l'émission. Merci d'être là.
Merci pour l'invitation.
Et de nous parler de ce portrait de famille, celui que vous créez en duo, un peu avec Camille. Bon, maintenant quand même, et on y reviendra peut-être un peu plus tard, il y a cette famille élargie, cette famille recomposée avec votre conjoint et ses deux filles. Mais on veut parler de Camille, bien sûr, aujourd'hui. Et on démarre toujours l'émission avec cette photo, ce portrait de famille qui circule déjà sur notre réseau, sur nos médias sociaux. Une magnifique photo.
Merci.
Qui a été prise l'été dernier, je pense,
oui.
Hein, et qui représente bien, je pense, l'âme de Camille, qui est un petit rayon de soleil. C'est comme ça que vous la décrivez, et je pense que c'est comme ça qu'elle est perçue. Camille, lorsqu'on la rencontre une première fois, on s'en souvient.
Oui, oui. C'est quelqu'un qui marque la mémoire en général, là, en effet.
Camille, elle vit avec une maladie génétique qu'on appelle le syndrome de Turner,
oui.
Qu'une maladie rare, je pense, Valérie.
Ben, c'est une maladie rare. Camille serait comme la plus lourdement atteinte répertoriée au monde. Donc, on hésite même à identifier ce diagnostic-là auprès d'elle. Certains départements en médecine vont dire que c'est ça, d'autres vont dire que c'est pas ça, parce qu'elle est tellement atteinte que ça devient quasiment comme absurde de donner un diagnostic. Là.
C'est un paquet de surprises, Camille.
Oui, c'est à l'infini, là. On peut pas. Puis il y a un enfant, hein, son développement est dynamique. On ne sait jamais. On ne peut pas prévoir là, qu'est-ce qui va se passer. Mais pour Camille, c'est encore plus vrai, là, je dirais.
Ça s'exprime comment le handicap chez Camille?
Camille, bon, elle a une déficience intellectuelle sévère. Elle a de petite taille. Elle a une déficience auditive, une déficience visuelle. Elle a un trouble de communication, elle aurait un TDAH, un trouble de l'opposition, avec une majeure en impulsivité. Elle a des problèmes au niveau osseux aussi, là, des malformations, des anomalies neurologiques. Tu sais, ça touche à peu près toutes les sphères développementales.
Il y a aussi une caractéristique importante chez Camille, lorsqu'on la voit, on le saisit bien, c'est qu'elle est toute petite. Elle a presque 13 ans, je le disais tout à l'heure, mais on aurait l'impression qu'elle a peut-être 5 ou 6 ans.
Souvent, il y a plusieurs formes de nanisme, là, puis il y en a qui sont comme plus connues que d'autres parce que il y a plus de personnes qui en sont atteintes. Le nanisme de Camille est assez particulier, là, souvent va être qualifié de lilliputienne, là, puis là, je ne sais pas si ça se dit, là, des fois, j'ai des façons aussi de parler de Camille ou des gens qui ont des limitations fonctionnelles d'une façon assez particulière. Je me le permets parce que je le côtoie assez de proche, là.
De toute façon, on va le dire, Valérie, vous êtes quelqu'un de très, très drôle et de très coloré.
Bon, tellement telle fille, là. Camille, j'imagine qu'elle apporte ça aussi, là. Mais ce qui fait que c'est vrai, quand on voit Camille, les gens pensent qu'elle a 4 ans, à peu près. C'est assez cohérent, là, au niveau du développement, de son développement, là, puis sa grandeur, là, ça fonctionne assez ensemble. Il faut se dire que Camille n'aura pas de puberté, donc elle n'aura pas, son corps ne va pas changer, là, comme elle n'aura pas l'air d'une mini-adolescente. Elle va vraiment avoir l'air d'une enfant toute sa vie.
Et d'ailleurs, c'est un enjeu dans votre vie en ce moment, Valérie, parce que 12-13 ans, c'est habituellement le passage vers le secondaire, et vous n'êtes pas certaine que c'est une bonne option pour Camille d'y aller.
Écoute, je trouve pas que c'est une option, là. Donc, c'est sûr que pour nous, là, c'est un enjeu qui est dans notre actualité. C'est assez quotidien, là, comme discussion, comme réflexion. Mais comme c'est un enfant qui a des besoins particuliers puis qu'il faut qu'il rentre dans le cadre, là, qui n'est pas du tout fait en fonction d'elle-même, puis il y a tout le temps la réflexion, c'est-tu moi, là, qui ai un blocage, je veux pas que ma fille passe à d'autres choses, mais... En tout cas, dans ma façon de l'élever, puis c'est une valeur aussi, Camille a le droit d'être entourée de gens qui lui ressemblent, de pouvoir s'épanouir où est-ce qu'elle en est.
Ouais.
Puis elle n'aura pas, elle, d'adolescence. Elle a l'air d'une enfant de maternelle. C'est eux qui ressemblent dans leurs intérêts, dans leur corps, dans leur façon de bouger, dans le mobilier
jouer
aussi, qui fait partie de son espace. Là. Fait que, ça n'a pas rapport de la mettre dans une école secondaire. Puis je trouve ça dramatique que ça puisse pas se produire ou en tout cas qu'on doit vraiment travailler fort pour pouvoir se faire entendre par rapport à ça parce que là, c'est une case, puis dans la case, il y a une cote qui arrive à un âge, puis cet âge-là ne marche pas. Mm-hmm. Quand, si tu la regardes, tu vois bien que ça n'a pas de bon sens. Là, puis c'est de même pour plein d'affaires tout le temps.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, c'est tous les gens, tu sais, les parents qui ont des enfants qui ont des besoins particuliers vont le dire, mais, tu sais, quand on parle de soins de santé ou de scolarisation, c'est majeur, c'est fondamental, là, tu sais, puis ça, pour elle, puis pour la famille au complet, là, tu sais, c'est... En tout cas, fait que je suis là-dedans, je m'emporte.
Vous êtes là-dedans, Valérie, depuis presque 13 ans. Je le disais tout à l'heure d'une façon humoristique. Camille, c'est un bébé de Pâques. Elle est née à Dolbeau, vous venez de là. Un vendredi de Pâques, vous étiez toute jeune, 23 ans. Le temps file, on n'aura pas le temps de tout raconter, cette naissance qui a été, bien sûr, marquée par
de la peine, un dépaysement, de la souffrance. Mais ce que j'ai envie de dire, par exemple, c'est que très rapidement, bon, vous êtes revenu à Montréal, relevé les manches, retourné aux études en éducation spécialisée, vivre en colocation pour arriver à joindre les deux bouts. Et il y a un réseau social qui s'est créé, très, très important, qui vous a porté à travers ces années-là, qui ont été peut-être plus difficiles là, dans les premières années, et ce projet-là de voyager aussi. Mmh. Et je sais que c'est important, Valérie, pour vous de dire qu'il y a plein de possibilités avec un enfant qui vit avec un handicap. Vous avez voyagé avec Camille, et on y reviendra parce que le temps file à vive allure. Voyager, et il y a le sport aussi qui a été important. Camille, elle fait du sport. Vous en faites aussi avec elle. Oui. C'est important.
Oui, c'est important. Puis tout à l'heure, je parlais des valeurs. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, dans la vie, quand tu élèves un enfant, point, tu sais, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais transmettre comme valeur? Qu'est-ce qui est important pour moi pour diriger un peu les enlignements que je vais lui donner? Tu sais, puis à un moment donné, moi, je me suis posé cette question-là. Là, je prends des décisions et tout ça. Qu'est-ce qui est important? Puis à un moment donné, ce qui nous a amené à voyager, c'était vraiment une question de valeur, de prendre soin de soi, de prendre le temps de s'aimer, de mettre nos forces en avant-plan. Puis le sport est arrivé, puis l'idée de voyager est arrivée aussi dans un moment extrêmement difficile, physiquement puis psychologiquement. Oui. Puis la même chose pour le sport un petit peu. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui racontent ça comme ça aussi. La première fois que j'ai mis mes espadrilles pour courir, c'était un moment de détresse. J'avais besoin de sortir ça quelque part pour en faire quelque chose de positif. Donc prendre quelque chose de difficile, puis en faire un moteur pour aller plus loin avec ça. Le voyage, ça a été ça. Puis le sport, la même chose. De pouvoir le transmettre ensuite comme quelque chose de positif à ma fille, puis qu'on puisse partager ça ensemble. D'arrêter de se concentrer sur les défis, puis de focusser sur le positif, puis voir comment on peut réaliser ça. Là.
Et se concentrer sur le défi sportif Altergo. Camille, y participe depuis combien de temps?
Elle a uniquement deux participations, je pense, à son actif. Mais
Maxime Gagnon dit oui.
Oui, c'est ça. Mais ça faisait longtemps que je me demandais comment on fait pour participer, comment on fait. J'interpellais l'école. Bon, il y avait, bon, pour différentes raisons, pas tant d'ouverture ou de possibilités. Puis, on était encouragé aussi par notre ami, là, Jean-Marie Lapointe, de dire hey, là, il faut que vous veniez au défi. Puis, quand t'en parlais, là, j'ai déjà des frissons.
Tout à l'heure, on a parlé rapidement du voyage. Vous êtes parti quand Camille avait quoi, 6 ans à peu près? 7 ans. 300 jours, c'est ça? Faire le tour de l'Amérique du Sud.
L'Amérique nord et centrale. On est en Italie. Aller-retour au Costa Rica.
Allez, oui, OK. ça a apporté quoi, cette aventure-là, dans votre rapport avec Camille, avec peut-être cette réalité-là différente aussi?
Je pourrais pas te dire. Je ne sais pas si c'est parce que ça fait longtemps, là, qu'est-ce qui a changé, mais ce que je sais, c'est que j'ai appris à connaître beaucoup plus ma fille, puis que ça a été payant pour moi puis pour elle de prendre du temps ensemble. Mm-hmm. Y a plein de manières de le faire, puis nous, on a choisi celui-là. C'était peut-être un peu intense là, pour les gens autour de nous de comprendre un peu cette aventure-là, mais il n'y avait pas d'autre moyen pour moi. Puis encore aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissante envers moi-même d'avoir eu l'audace de prendre le taureau par les cornes puis de faire cette aventure-là. Qui n'aurait pas été possible non plus sans mon réseau social, sans des amis extrêmement investis qui ont pris ce projet de voyage-là comme si c'était le leur, qu'ils l'ont porté avec moi. J'ai pris du temps avec ma fille pour mieux voir ses forces à elle, pour mettre en avant-plan. Tu sais, tout à l'heure, je disais c'est important de mettre nos forces en avant-plan, faire quelque chose de beau avec ce qui est difficile, de dire, ben on n'arrête pas de courir d'un rendez-vous à l'école, au travail, ben OK, ben là, on prend du temps ensemble. Je trouve que, bon, ma fille n'est pas capable de jouer à quelque chose, de prendre... Moi non plus, j'ai pas de temps, je suis tout le temps en train de courir partout. Bon, mais là, on s'arrête, là, on passe 3 semaines à la plage, ici. On n'avait pas de but précis. On partait 1 an, puis on savait pas où on allait. Donc, on se disait pas qu'il était le jour, on va faire ça, on va être rendu dans tel pays. T'sais, c'était vraiment au jour le jour. Ça, ça fait un bien énorme pour relativiser aussi les choses puis et donner l'occasion de s'épanouir. Puis moi aussi, je voulais pas y faire porter à elle que j'avais pas voyagé dans ma vie. Parce que souvent, bon, j'ai dit, ben moi, je peux pas voyager, je travaille. Ben moi, je peux pas voyager, des enfants. Mais je dis, ben moi aussi, là. Puis c'est pas elle, elle en a déjà lourd sur les épaules. Fait que je veux y voyager, ben viens-t'en, on y va, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ouais.
Vous avez parlé, Valérie, de l'impact de ces amis-là pour faire le projet Voyager pour grandir, d'aussi ce que ça bouleversait chez les autres. Mais l'entourage, le réseau social, c'est important pour vous. Vous avez jamais... Vous êtes jamais dit, ben j'ai une fille handicapée, je vais m'enfermer chez moi. Non, à l'inverse, vous avez vécu en colocation. Camille a des amis, vous avez fréquenté d'autres personnes. Ça a été important, ce réseau social-là, de le créer.
Oui, c'était vraiment important, puis ça s'est fait naturellement. Mes amis ont eu des enfants en même temps que moi.
Ouais.
Fait que peut-être que ça, c'est aidant aussi. Bon, on est enceinte en même temps, puis... Pour moi, un bébé, c'était un bébé.
Mm-hmm.
Et que ma fille avait des besoins particuliers, mais bon, les enfants étaient tout aux couches, puis, tu sais, ils prenaient toute une bouteille de lait. Bon, Camille, elle prenait son lait à cuillère parce qu'il était épaissi, là, mais, tu sais, c'était... On se promenait en poussette, puis bon, tu sais, fait que pour moi, ça a continué. J'étais jeune aussi. Peut-être que ça n'a pas le même impact non plus quand on... Je sais pas.
Mais ça aurait pu être confrontant de dire « Mon bébé n'est pas comme l'autre. Mon bébé ne marche pas en même temps, ne parle pas en même temps, n'a pas le même vocabulaire. »
Mais non. Moi aussi, ça... Ben, c'est tellement personnel, là, comment on vit ces choses-là. Mais pour moi, tu sais, ça a été rapide quand Camille est née que je me suis dit... Là, tu te ressaisis, tu te lèves debout, puis là, c'est toi sa mère, tu te transformes en lionne, puis ça commence maintenant, là, tu sais.
Oui.
Fait que Camille, c'était avec les autres, on était accompagnés par plein de ressources communautaires, je me fais une place en garderie pour pouvoir intégrer un groupe régulier. Tu sais, ça a toujours été vraiment important. La scolarisation, ça a été différent, mais pour moi, tu sais, c'était comme une petite fille à part entière dans une communauté, puis j'étais dans des conseils d'administration, je l'amenais avec moi, tu sais, ça a été vraiment, ça a jamais, je me suis pas arrêtée à ça. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a un décalage, on en parlait tout à l'heure, là, Camille, ses amis, les enfants de mes amis, ça n'a rien à voir. Quand j'y vois, c'est de la misère à cliquer, parce que Camille, c'est ma réalité, c'est ça, c'est la sienne. Mais quand je vois des enfants avec qui elle est à la garderie, ça n'a pas rapport, là. Tu sais, ils mesurent, eux autres sont grands. Tu sais, c'est des adolescents, là, ils ont 12 ans.
Ouais.
Tu sais, mais Camille, elle a l'air d'avoir 4 ans. Tu sais, mais. Fait que là, Camille, dans le fond, était plus du développement des petits frères, du troisième petit frère, la petite soeur. Là, tu sais, tant décalage.
Mais elle a toujours sa place. Mais, c'est ça l'important. On a parlé d'organismes communautaires. Maintenant, vous êtes à la tête d'un organisme, mère avec pouvoir. C'est pas un hasard d'être arrivée là, Valérie. En tout cas, pas complètement.
Mais non, c'est quand je suis revenue de voyage. Bon, à un moment donné, il fallait que je retourne travailler, hein, parce que la vie, c'est ça, tu sais. Puis il y a eu cette offre d'emploi-là qui est passée. Je dis, écoute, c'est à moi, c'est mon emploi. Bon, moi, j'ai élevé ma fille toute seule pendant 8 ans. J'étais célibataire, monoparentale. Puis j'ai vécu en colocation. Après ça, je suis allée vivre toute seule avec Camille. Puis cet emploi-là est arrivé, puis je me suis dit, c'est à moi. C'est mon boss, c'est à moi. Bon, mes partenaires, bon, au travail, c'était des organismes qui nous donnaient un coup de main aussi quand Camille était petite. En fait, je travaillais avec le CPA du Carrefour. Puis c'est là que Camille était quand elle était petite. Fait qu'il y a plein de mamans. Moi, entre autres, la présidente du conseil d'administration... Son fils était dans le groupe de ma fille au CPE.
Oui. Mère avec pouvoir, c'est d'amener un cadre de l'aide, de l'accompagnement à des mamans monoparentales.
C'est des logements pour des mères monoparentales qui ont des enfants de moins de 5 ans. Et les mères sont en processus de retour au travail ou aux études. Donc, c'est un programme temporaire, donc de 3 à 5 ans. Mais elles viennent chez nous, bon, pouvoir avoir un logement à faible coût, pour pouvoir retourner aux études. Donc, souvent, bon, pas terminé le secondaire, ils ont eu un enfant, bon, plein de défis dans la vie. Puis là, bon, début vingtaine, décident de se reprendre en main, d'aller terminer un diplôme pour obtenir un emploi. Ça fait 15 ans qu'on est ouvert. On a accompagné plus de 160 femmes, wow. C'est à peu près 180 enfants. Puis bon, faut toujours parler d'impact, là. On disait, bon, 85 % des femmes qui viennent chez nous repartent avec des études, un diplôme ou un emploi. Donc, quand ils arrivent chez nous, ils n'ont pas de secondaire souvent. Bon, il y en a qui sont à l'université pendant le parcours. Il y a toutes sortes d'histoires, puis c'est leur projet à elles. Il y en a qui décident de devenir travailleurs autonomes. Il y en a qui s'en vont dans les soins de santé. Et il y en a qui vont à l'université. C'est ton parcours. Où est-ce que tu es rendu? Où est-ce que tu veux aller? Nous, on va t'accompagner là-dedans. C'est sûr que c'est des valeurs qui me parlaient vraiment beaucoup, là. Oui.
Et toujours dans la même émission, on parlait de l'importance du sport dans la vie d'un enfant qui a une limitation fonctionnelle.
Maxime Gagnon, qui est avec nous en studio, lui, directeur général adjoint d'Altergo, directeur du défi sportif Altergo, de cet événement qui est majeur pour des enfants qui vivent avec des limitations fonctionnelles et pour leur famille aussi. On parle de ces retombées-là, mais aussi de ces difficultés. Est-ce qu'il y a parfois une difficulté pour les écoles de s'inscrire pour tout le rayonnement? Bon, ça fait des années que ça existe, le défi sportif Altergo.
Bonjour à vous, premièrement, mesdames. Le défi sportif, à la base, ça va être la 34e année du défi sportif. J'ai la chance d'être dans l'organisation depuis 22 ans cette année. Donc, j'ai vu le volet international grandir, mais le volet scolaire a toujours été présent, a toujours été important, parce que c'est l'athlète de demain. C'est la masse. Si on n'a pas cette masse-là, les jeunes ne peuvent pas faire une équipe de soccer, ne peuvent pas faire une équipe de hockey. Oui, quelqu'un de région peut s'entraîner en athlétisme puis venir toute seule par la suite, mais défisportif.com, c'est le mot à retenir. Vous allez vous inscrire, vous soyez dans une école intégrée, que vous soyez un jeune qui est dans une école régulière, qui a une amputation, puis il est tout seul, puis lui, il veut faire de l'athlétisme. défisportif.com, vous allez vous inscrire. François, qui est au niveau du sport scolaire, va être là. Jérémy, au niveau des sports internationaux, va être là pour vous accueillir. Alors, on est là pour vraiment que le jeune se dépasse. Les saines habitudes de vie, on en entend parler beaucoup dernièrement, mais on n'entendait pas beaucoup parler par rapport aux jeunes qui ont des limitations fonctionnelles, puis on trouvait ça important. Donc, avec Québec en forme, on s'est associé à cette nouvelle tangente qui est importante. Puis on a vu qu'il n'y avait aucun programme pour ces jeunes-là. Ils ont besoin de bouger parce que c'est, oui, la nourriture, mais c'est la médication qui va faire la grosse différence aussi. Diminution, plus positif, moins d'agressivité parce que le jeune fait du sport aussi. Puis je suis sûr que Valérie peut en témoigner. C'est bénéfique. Oui. Donc, que les gens viennent au moins une fois avec votre jeune, venez voir, venez encourager. Puis l'année d'après, bien, je suis sûr que votre jeune va vous le demander ou va demander à son professeur d'embarquer. C'est ce qui est important.
Ouais. Il y a un volet aussi d'accomplissement personnel, de confiance, d'intégration sociale.
Et Camille, là, quand je l'ai vue faire, je pensais même pas qu'elle serait capable là, de le faire. Là, je disais, elle va partir dans tous les sens. Elle fait la course, Camille. Là. Elle ne suivra pas. Elle ne saura pas que c'est le temps de partir. Elle va être en train de jaser parce que Camille parle beaucoup. Non. Elle savait ce qu'elle avait à faire, était entraînée, est partie. Et je capotais. J'avais des frissons. Quand elle est arrivée à la ligne d'arrivée, j'ai dit, ça, là, ça vient de faire ressortir tout le meilleur de ma fille. Ils sont allés chercher, là, par bon, l'ambiance, le setup, là, tout ça, ça fait ressortir juste le meilleur de ma fille. Je disais, c'est là, ce qui se passe présentement, là, c'est juste le plus beau, l'allée. Tu sais,
l'entrée des jeunes qu'on fait chaque matin, c'est quelque chose, autant pour le parent que nos dignitaires, nos partenaires, d'être là, puis de voir un jeune qui s'en vient avec sa marchette. La tête, il shake, il va-tu tomber? Puis là, tu vois le jeune qui lâche la marchette puis qui fait un high-five au monsieur ou une madame. Écoute, tu vois les yeux de cette dame-là ou de ce monsieur-là par la suite. Il dit, là, je le comprends ce que c'est. Je vois le dépassement de ces jeunes-là. Puis la même chose, c'est une course d'athlétisme. Il y a un départ, il y a une arrivée, il y a des couloirs, il faut que tu les respectes. Le jeune, il rentre dans un créneau qui est normal. Fait qu'éventuellement, lorsqu'il va grandir, s'il veut participer dans un volet plus participatif, il va l'avoir déjà vécu.
Il sait comment ça marche. Ça. Tout l'esprit de compétition, là. Moi, je trouvais ça beau, là. Puis c'est pas quelque chose qu'on va voir souvent chez nos enfants.
Ouais.
Pour vrai, là, tu sais. Puis là, Camille, elle a participé à des courses. Puis là, bon, elle est allée faire ensuite une autre course au Mont-Royal. Tu sais, mais elle savait qu'est-ce que c'était. Ça. Elle l'avait déjà vécu. Fait que là, on fait juste poursuivre ça. C'est un apprentissage comme un autre, mais c'est... Moi, je suis vendue.
Et l'apprentissage se déroule avant aussi.
Avant, mais tout au long de l'année, parce que le jeune ne veut pas. le vit une première fois. Pour lui, c'est l'inconnu. C'est oui, je me suis fait des amis. Mm-hmm. J'ai des gens qui me parlent dans mon école qui ne me parlaient pas. J'ai rencontré des gens qui me ressemblent. Parce qu'il y a beaucoup d'imitations là-dedans. Souvent, le jeune qui est en fauteuil roulant va voir, « Hey, lui, il fait ça comme ça. Ah oui, j'avais jamais vu ça. Ma mère, mon père ne l'ont jamais vu mm-hmm. non plus. Mm-hmm. Je suis capable, et ainsi de suite. » Donc, l'imitation. Mais l'inclusion sociale est grandement importante. C'est ce qu'on veut prôner par ces jeunes-là. C'est ce qu'on veut leur donner la chance tout au long de l'année. Une fois qu'ils l'ont vécu, là, c'est le professeur qui goûte, « Hey, on veut y retourner.
Ouais, » ouais.
C'est, je me promène avec mon chandail, ma médaille, mon certificat, mon dossard que j'ai eu en athlétisme jusqu'au mois de juin. Puis au mois de septembre, quand je rentre, la première question que je pose à mon professeur, c'est pas « Comment vas-tu? » C'est « Quand le défi sportif? » C'est ce qu'on se fait dire par les professeurs.
Ben, tu sais, nous, à l'école, en tout cas, c'est devenu dans le calendrier scolaire, l'enthousiasme était déjà là au début de l'année. Puis c'est toute la préparation, là, ils savent qu'ils s'en vont... C'est pas juste, bon, je vais en éducation physique, on fait notre programme, c'est là, on se prépare pour le défi sportif, ils ont un objectif, elle est déjà prête avec ses amis, elle va faire ça, puis elle se prépare. Dans les écoles aussi, les enfants ont des besoins. Bon, Camille est dans une école, les enfants sourds gestuels, à l'école Gadebois, il y a des enfants oui. aussi qui sont en fauteuil roulant, d'autres avec une marchette, puis d'autres qui sont ambulants, donc qui marchent. Ils se préparent tous aussi pour un défi ensemble, à la mesure de leur capacité. Mais dans le meilleur de ce qu'ils sont, mais ils se préparent tous à leur manière. Là, oui. C'est ça qui est beau. Là.
Combien de disciplines pour le volet scolaire, Maxime?
Pour le volet scolaire, c'est environ 8 disciplines. À chaque année, ça fluctue. Cette année, on inclut le baseball pour la première fois, justement, oui. pour les jeunes en fauteuil roulant, ainsi de suite. Les fédérations viennent nous voir. Puis on s'occupe que les sports qu'on présente dans le cadre du défi sportif, il y a un développement vertical qu'on appelle. C'est que le jeune va évoluer. Il est au primaire. Parfait. Il est au secondaire. Il sort du secondaire. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux plus aller à l'école, je ne peux pas travailler, mm-hmm. mais je peux faire encore du sport. Mm-hmm. Fait qu'il y a des fédérations qui ont besoin d'athlètes de masse, des Olympiques spéciaux, paralympiques, ainsi de suite. Ils peuvent à ce moment-là faire partie d'un groupe. Et ce réseau social-là est important, l'inclusion, de dire « Hey, moi, j'en ai déjà fait de la course, ouais. puis je suis capable de nager, je suis capable de courir, je suis capable de jouer dans une équipe de basketball debout. Oui, je vais peut-être avoir un petit peu plus de difficultés, mais déjà, j'en ai fait. » Fait que ce développement-là, pour le jeune, c'est un plus aussi.
Combien d'écoles, combien d'étudiants, d'élèves?
Combien d'écoles environ? C'est environ... Cette année, on devrait en avoir beaucoup parce que dans la passion, on avait vécu un peu des moyens de pression des différentes commissions scolaires, mm-hmm. mais cette année, on devrait viser facilement le plus de 125 écoles. Le plus, wow. plus de 4... L'an, en 2015, on avait 5000 jeunes. Et je peux vous dire que d'après moi, on va le dépasser cette année, plus de 5000 jeunes. Mais ça va être une belle réussite. C'est nos athlètes de demain.
Ouais.
Tu sais, le haut niveau le dit. On vient faire du recrutement, on vient voir ces athlètes-là parce qu'il y a du potentiel. Puis on est le seul événement qui regroupe tant de jeunes au Canada. Puis on n'a pas eu le temps de regarder dans les autres pays aussi, mais cet événement-là est unique parce qu'on regroupe autant des jeunes de tout type de déficience. Chacun a sa compétition, chacun a sa vague. Et que tu sois un athlète visuel, ben on va mettre les cordes, puis là, ils vont faire leur compétition. Que tu sois en fauteuil roulant, ça va être les fauteuils roulants. Par la suite, ça va être les gens avec une prothèse, les marchettes. Chacun a sa propre course. Mais après ça, tous ces jeunes-là se retrouvent où? Devant la scène, avec d'autres jeunes, à la remise de médailles.
C'est à faire des rencontres extraordinaires aussi, avec Jean-Marie Lapointe, avec
Chantal Petitclerc,
les Ilegs, Patouelli également, des athlètes professionnels, je pense à José Rebello, bon, il y en a d'autres également qui sont présents. Puis, tu sais, j'ai pas d'autres enfants à moi là, que Camille, mais tu sais, j'ai plein d'amis qui ont des enfants, mon chum a deux filles, puis t'es tout le temps fier de ton enfant quand tu fais du sport, mais tu sais, quand ton enfant, là, il s'enligne avec un pronostic qui n'est pas bon, là, puis qui n'est peut-être pas supposé de rien se passer, puis qu'il vienne gagner une course ou qu'il vient juste de passer.
De finir, juste finir
t'sais,
une course.
Les
ou d'être
parents,
présent.
Là, se disent, t'as une fierté. Moi, je me pouvais plus. C'est extraordinaire qu'est-ce qui se passe là, là.
Que le jeune se lève ce matin-là, qu'il mette ses running shoes, qu'il vienne déjà là.
Le défi était énorme.
Ça, c'était juste de se présenter au fil d'arrivée. C'est une victoire. Ouais. De finir la course, je présume que c'est un autre. Fait que...
Maxime, tout le monde est bienvenu au défi.
Tout le monde est bienvenu. Malheureusement, c'est gratuit. Venez, ça
nous fait plaisir. Il n'y a pas
d'excuses. C'est ça, c'est ce qu'on veut. Venez nous voir. On a même la web diffusion qui est là. Vous allez sur notre site web. Les parents qui ne peuvent pas se déplacer, des fois, beaucoup de rendez-vous médicaux, ces choses-là. Je ne peux pas aller voir mon jeune, je trouve ça triste. Allez sur le site. On a des compétitions live en direct. Vous pouvez suivre votre jeune, dans quelle vague il est. Il y a plusieurs sports qu'on présente. Puis Tout est sur défisportif.com. Les inscriptions, les...
Inscriptions, vous recherchez des bénévoles, il faut le dire encore, des athlètes.
Les athlètes, les inscriptions se terminent bientôt, mais oui, il y a encore possibilité au niveau scolaire de le faire. Si jamais il y en a, on est à moins de 2 mois. Là, on est le 27 aujourd'hui, fait que moins que 2 mois présentement. Je veux que les gens s'inscrivent. Venez voir, puis l'année prochaine, venez vous inscrire. On a une zone d'essai. Venez essayer les sports avec vos jeunes, ça va leur donner le goût. Oui, faites de l'athlétisme, mais peut-être qu'il n'a jamais fait d'autres sports. On a plus de 15 sports présents.
Du 24 au 30 avril 2007. C'est un rendez-vous. En tout cas, moi, j'y serai, Valérie.
Bien, c'est sûr.
C'est un rendez-vous. Merci, Maxime Gagnon.
On vous attend.
Eh bien, c'est tout pour cette édition du 3 mars 2017 du National. Merci à toute l'équipe qui rend possible l'émission et merci à vous, évidemment, de nous écouter, chers auditeurs, chères auditrices. Pour plus d'informations ou écouter les émissions ou les entrevues, visitez canalm.vousetvoix.com. À la semaine prochaine.